Venir avec moi ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 11. Et on va lire du verset 27 jusqu'au verset 5 du chapitre 12, mais on va regarder un peu tout le passage. Alors c'est un passage sur lequel j'ai déjà prêché, j'ai découvert un message sur le site de l'église de Chalon déjà, mais c'est à géométrie variable. Alors, ce qui avait été prêché était très utile pour la préparation. J'avais moi-même d'autres notes, mais qui ne correspondaient pas du tout à là où nous en sommes. Donc voilà, c'est un peu un melting pot. Donc, Genèse chapitre 11 et au verset 27, nous lisons. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. L'Éternel dit à Abram, Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et c'est la parole de Dieu. Et ce matin, donc, nous voulons regarder ce passage et un peu le reste du chapitre 12, et on va considérer la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, donc c'est le titre pour ceux qui mettent sur les sites. Dans tout le début de la Genèse, nous voyons la multiplication de la race humaine en partant d'Adam à travers Seth, la terre, ce peuple d'hommes et de femmes qui sont à l'image de leur père. C'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui sont asservis dès la naissance au péché et séparés de Dieu. Même si un petit nombre a commencé à invoquer le nom de l'Éternel dans la génération qui a suivi Seth, la terre se remplissait d'hommes et de mâles. Jusqu'à ce que Dieu intervienne avec le déluge. Et on a cette description de ce qu'il a vu quand il regardait sur la terre. Et Dieu est intervenu donc avec le déluge, mais aussi avec un homme à qui il a fait grâce, Noé. Et le processus recommence. Multiplication des hommes, multiplication du mal, avec une situation très semblable à la nôtre. C'est à ce moment que nous voyons, par exemple, Alors là, il y a des siècles qui passent, mais nous voyons l'incident de Babel. Les hommes, afin de s'affranchir de Dieu, ce Dieu contre qui ils se rebellent, les hommes donc décident de s'unir pour bâtir une ville et une tour qui les amènera au ciel par un autre chemin. C'est en fait, pour nous qui vivons aujourd'hui, la première globalisation. La suite est connue. Dieu sépare les hommes et les plonge dans l'incompréhension les uns envers les autres. Dieu intervient de nouveau pour séparer les hommes et les disperser à la surface de la terre. On ne vient pas au repos de l'âme en unissant des cœurs rebelles, mais en passant par la promesse de grâce que Dieu a donnée au début, juste après la chute. Donc les hommes, en fait, suivaient déjà à ce moment-là une voie sans issue, une voie qui était vouée à l'échec de s'unir. On ne peut unir que ce qu'on a en soi. Les hommes ont voulu refaire le chemin vers Dieu en s'unissant et en conjuguant leurs forces. Ça, c'était vraiment le cœur de Babel, afin de s'affranchir de Dieu. Dieu avance, lui, avec son dessein de grâce, en sélectionnant une famille, puis un homme dans cette famille, Abraham. Alors, je signale maintenant, pour éviter les questions, tout le temps que nous allons regarder, Abraham est en fait Abram. Mais bon, c'est plus facile, on va l'appeler Abraham, parce qu'on vit dans l'espérance, n'est-ce pas? Donc, voilà, les hommes cherchent à s'unir, à tous se ressembler, ils n'y arrivent pas, bien entendu, et Dieu fait exactement le contraire, il sélectionne. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que les gens disent « Mais alors les autres ?» Eh bien, Dieu a répondu dans sa parole à cette question. Mais il sélectionne donc Abraham. Et maintenant, on a l'histoire biblique, l'histoire de Dieu qui zoome, et ça va aller jusque dans le Nouveau Testament, sur une famille, sur un homme, puis une famille, et puis une tribu et une nation. Et c'est bien là l'histoire de l'œuvre, l'image de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de voies, mais la voie que Dieu prend est une voie qui est complètement différente. Et cela nous fait penser, par exemple, à un message qu'on a regardé, je crois que c'était il y a 15 jours, Ésaïe 54, où nous avons cette parole qui est tellement claire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, sont différentes. Voyez. Et ici, on a exactement cela. Les hommes veulent faire disparaître les différences, les spécificités. Lui, au contraire, il singularise Abraham. Un homme spécial seulement dans le dessein de Dieu. Et puis il singularise le peuple qui est issu d'Abraham, car il va accomplir le salut au moyen d'un seul homme, son homme, qui en fait est lui-même incarné, Jésus-Christ. Et quand même le peuple juif s'accapare les bienfaits de l'Alliance en pensant que ce n'était que pour eux, n'est-ce pas? Même quand ces Juifs s'accaparent les bienfaits de l'Alliance, Dieu fait éclater le carcan humain pour manifester l'immensité de son dessein. C'est pour les païens. D'une part, un dessein qui concerne toutes les familles de la terre, et d'autre part, un dessein qui ne repose pas sur ce que l'homme produit, mais sur ce que Dieu suscite. Donc, ça n'est pas ce que l'homme fait, mais c'est ce que Dieu fait. Et on le voit dans notre passage, on le voit en fait dans tout le livre de la Genèse. Et je prends l'occasion, une petite parenthèse, je prends l'occasion pour vous recommander ce commentaire sur la Genèse qui est publié de Philippe Ifson, qui est vraiment très bien, et il montre ce point en particulier. Ici, dans notre passage, le passage commence, enfin ce qu'on a lu, commence avec « Voici la postérité de Terach », verset 27. Mais en fait, une meilleure manière de rendre ce passage, ça serait « Voici ce que produit Terach ». En fait, il va produire, donc, parce qu'après, au bout d'un moment, on oublie assez rapidement Terach, et puis on passe à ce qui est venu de Terach. Et c'est toute la Genèse est bâtie sur ce modèle-là. C'est ce que Dieu fait. Terach a produit des hommes qui sont tout à fait à son image. Ils ont toujours un cœur rebelle et centré sur le moi, centré sur soi. On le voit par exemple plus tard dans l'histoire, quand on voit la famille qui est restée à Charan, quand Jacob retourne là-bas par exemple. Ce sont des gens qui sont dans l'idolâtrie, qui ont des dieux. Rachel elle-même avait ses idoles, elle part, elle suit son mari avec ses idoles. Donc voilà ce que Terach produit. Et donc on le voit dans le reste de la Genèse. Mais une fois encore, Dieu intervient et il suscite Abraham. Et c'est donc l'histoire de l'humanité. L'homme produit et cela ne cesse que d'aller vers la dégradation, vers une déchéance. Il ne produit que à son image, à la fois ses descendants et ses actes. Et on pense à ce Genèse 6, l'Éternel vit que toutes les pensées de l'homme étaient toujours, continuellement, tournées vers le mal. Et quand la génération de Noé est décrite dans le Nouveau Testament, le Seigneur ne dit pas qu'il faisait un mal extraordinaire. Non, ils vivaient pour eux-mêmes. Ils prenaient en mariage, ils donnaient en mariage, ils mangeaient et tout ça, et ainsi de suite. Ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà ce que l'homme produit. Mais Dieu continuellement relève la bannière de sa vérité en suscitant l'homme qui amènera son dessein vers la réalisation ultime. Et on a vu Noé, avant il y avait Seth, on a vu Noé, on voit Abraham, ensuite il y aura sans cesse des hommes que Dieu suscite, n'est-ce pas? On pourrait penser que Ésaü sera celui qui va faire avancer. Non, Dieu choisit Jacob et nous avons vu dans la lettre aux Romains que, en fait, c'est l'œuvre de Dieu, du dessein de Dieu. Et continuellement, jusqu'au jour où, précisément, il choisit l'homme qu'il envoie, qui ne vient pas de la terre, lui-même. Et en fait, c'est ce que montre Étienne dans son discours au chapitre 7 des Actes, quand il reprend l'histoire devant le Sanhédrin, l'histoire d'Israël. Alors, il n'est pas en train de faire un catalogue de l'histoire d'Israël. Il montre qu'à chaque fois que Dieu a suscité quelqu'un, cette personne a été haïe des autres. Et là, on pense à Joseph, par exemple. Et il dit, et maintenant, voilà, il a suscité dans ces derniers jours l'envoyé ultime. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en croix. En fait, c'est tout ce que Étienne dit, parce que c'est l'histoire de l'humanité, une humanité qui est rebelle, et si Dieu ne relevait pas sa bannière, la bannière de son salut, il n'y aurait point de salut. Et il la relève dans le cadre de l'Alliance qui, en fait, va jusqu'à ce salut ultime dont on a parlé dans la présidence de ce culte, cette croix qui a été dressée, mais Dieu. Et puis plus loin, il dit « mais maintenant ». Donc il y a quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez, on a regardé ce « maintenant », ce n'est pas simplement quelque chose de chronologique, c'est une autre manière de venir. Donc là, on a Abraham, et on va regarder ce matin la foi d'Abraham. Premier point, la naissance de la foi d'Abraham. Alors, il faut reconnaître, le texte que nous avons devant nous présente des difficultés. Peut-être le mercredi, on pourra entrer dans ces détails, on ne va pas laisser la chose, focaliser notre attention maintenant. On va se concentrer sur ce que Dieu fait. Mais il y a des difficultés. Alors, j'aurais pu intituler ce message « L'appel ou la vocation d'Abraham ». Et en fait, c'est un peu dans ce sens-là que j'étais parti, car on y voit effectivement que Dieu vient l'appeler à partir vers ce qu'on est venu à appeler la terre promise. Mais d'autres passages dans la Bible montrent que quelque chose s'est produit avant cet appel. Et si on va en Acte 7, par exemple, on voit Étienne qui se défend devant, enfin, il ne se défend pas, il défend la foi biblique devant le Sanhédrin, et il dit, regardez, le Dieu de gloire, alors c'est Acte 7, verset 2, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Donc vous voyez, ici, comment, Étienne ne parle pas d'appeler. La fin de la phrase, il le fera. Mais il a apparu, et c'est le Dieu de gloire, il a apparu à notre père Abraham. Néhémie, lui, dit pour sa part, c'est toi, Éternel, qui as choisi Abraham et qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée. C'est Néhémie 9:7, si vous prenez des notes. Il l'a choisi, et puis il l'a fait sortir. Et la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé à Ur en Chaldée? Abraham était-il quelqu'un de spécial qui se distinguait de ses compatriotes dans cette ville? Si on en croit la Bible, la réponse est non. Josué, par exemple, décrit ainsi les ancêtres du peuple d'Israël, cette famille de Terach. Il dit, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, donc là il met les trois ensemble, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Euphrate. Là, on parle de la zone Babylone-Ur. Ils habitaient de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Josué 24, verset 2. Ils servaient d'autres dieux. Et là, bien entendu, c'est la famille. Et Abraham, il est là. Et il sert d'autres dieux. Et alors, Ur était connu pour tout un système religieux très sophistiqué. Il y a eu des fouilles qui ont mis au jour des choses dans ce sens-là. Abraham n'était pas pire que les autres, mais Abraham n'était pas meilleur que les autres. Il ne se distinguait pas, il était là. Comme son père, comme son frère, il faisait ce que tous les autres habitants de cette ville, Ur, faisaient. Ils adoraient d'autres dieux. Et il le faisait parce qu'il ne connaissait pas le seul vrai Dieu, l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. C'est pour cela. La foi d'Abraham, le père, le modèle des croyants, n'est pas quelque chose que lui-même a produit. C'est assez intéressant quand on pense à tout ce qui s'est produit par la suite dans le peuple juif et surtout à l'époque de Jésus et puis de l'Église primitive. Le premier juif, mes amis, était païen. Il n'était pas différent. Donc ce n'est pas quelque chose que lui-même a produit. D'ailleurs, tous les passages qui le mentionnent le montrent bien. Acte 7, par exemple, dit, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Si Dieu n'apparaît pas, Abraham continue tel quel. Pour Néhémie, c'est toi, éternel Dieu, qui as choisi. Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. Josué, je prie votre père Abraham, dit-il au verset 3, chapitre 24. C'est un passage qu'il faut garder à loisir. Dieu est à l'origine, Dieu suscite. Mais la question se pose de savoir comment Dieu suscite à la fois dans le cœur d'Abraham, pour en faire quelqu'un de spécial, quelqu'un dont on parle encore aujourd'hui. Alors notre texte ne le dit pas, et aucun texte dans la parole de Dieu ne le dit en référence à Abraham. Aucun, autant qu'on puisse voir, tout au moins, pas clairement. Mais la parole de Dieu le dit, et elle est très claire à ce sujet-là. Et nous allons dans Romains 10. Alors bien entendu, on vient d'étudier, enfin on ne vient pas d'étudier ça, on a étudié ça récemment. Et regardez au verset 8, on commence la lecture au verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, et c'est là qu'on prend, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc là, on est en train de parler de la même chose, n'est-ce pas? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qui s'est passé en Abraham. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et puis, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, aura la foi. Donc Abraham a dû invoquer le nom de l'Éternel. Mais comment ? Il sert d'autres dieux. Continuons au verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ?» Vous voyez, c'est la prédication. Et ici, on se pose la question, comment est-ce que Abraham est venu à croire? Eh bien, d'une manière ou d'une autre, la bonne nouvelle du salut de Dieu par grâce était annoncée à Ur. Et Dieu a utilisé cela pour donner la vie à cet homme, une vie qui croit. La parole de Dieu le dit clairement. Alors, d'où venait celui-là, et ainsi de suite, on ne sait pas. Le salut vient de l'écoute de la parole et de l'œuvre de l'Esprit sur la parole. Terach ne pouvait rien apporter à son fils. Et la vie de Dieu donne de nouveaux yeux. Remarquons en passant que nous ne savons absolument rien de celui ou de ceux qui ont été utilisés pour toucher le cœur d'Abraham. Absolument pas. Rien n'est dit, et pourtant, ces personnes ont été utilisées. Et on pense, par exemple, plus près de nous, cet homme Charles Spurgeon. La plupart d'entre nous avons lu des livres de Spurgeon, n'est-ce pas? Un homme qui a été puissamment utilisé. Mais on ne sait pas vraiment le nom de celui qui a été utilisé pour toucher son cœur, ou pour que Dieu touche son cœur. Alors apparemment, il y avait trois hommes qui prétendaient être ceux-là. Il y a eu des bagarres. C'est dommage, ça gâche un peu l'histoire, n'est-ce pas? Mais les hommes font toujours ça. Mais on ne sait pas le nom. Mais peu importe. Parce qu'on voit ce que Dieu a fait à travers ce serviteur. On voit ce que Dieu a fait à travers Abraham. Et c'est une leçon pour nous. Parce que nous sommes là parfois à parler et on a l'impression qu'on ne fait même pas attention à nous. Est-ce que cet homme, à Ur en Chaldée, a su quelque chose au sujet d'Abraham? Pas évident. On ne sait pas. Tout simplement. Et ça nous aide parce que des fois, on a l'impression d'être, de faire la figuration. Mais si nous avons la semence, c'est la semence qui compte. Donc voilà, quelques réflexions sur la naissance de la foi d'Abraham par la parole de Dieu. Et Dieu a de nombreux moyens de faire germer sa parole. Maintenant, voyons un deuxième point, la vocation de la foi d'Abraham. Parce que l'appel de Dieu s'adresse à Abraham, mais il s'adresse à la foi d'Abraham. Donc ce titre peut surprendre. Ne vaut-il pas mieux dire la vocation d'Abraham? Oui, c'est possible. Mais il y a des éléments dans cette histoire qui permettent de penser que l'appel de Dieu s'est passé en deux temps. En deux temps. Et c'est parmi les difficultés de tout ce passage-là. Mais on va laisser ça de côté pour le moment. Pour commencer, il est clair que Dieu s'est révélé à Abraham alors qu'il était à Ur en Chaldée. C'est ce que nous venons de voir. Est-ce que l'appel de quitter Ur physiquement accompagnait cette révélation? Cela n'est pas sûr. Il est possible que oui, car Terach semble avoir saisi cette occasion pour partir et s'établir à Charan. Alors, si c'est des lieux qui vous sont un peu barbares et inconnus, vous regardez, pas nécessairement maintenant, mais au dos de votre Bible, vous avez des cartes. Il y a une carte qui est assez simple, hein, et ça montre. C'est le croissant fertile, comme on apprenait dans le temps. Je ne sais pas si on le fait encore maintenant. On le fait encore maintenant? D'accord. C'est le croissant fertile, et c'est Charan est en haut du croissant fertile. Donc, il semble que Terach a pris cette occasion ou une occasion pour partir et s'établir à Charan avec la famille qui lui restait, tout au moins Abraham et la famille de celui qui est décédé. Il semble que Nachor est suivi plus tard. En tout état de cause, Abraham n'a pas répondu entièrement à cet appel si celui-ci lui a été adressé à Ur. Et cela nous enseigne une vérité importante. Terach a quitté Ur. Et il l'a fait, nous voyons au verset 31, pour aller au pays de Canaan. Mais il n'est jamais arrivé au pays de Canaan. Il est bien dit qu'il meurt à Charan. C'est une autre difficulté là. Mais bon, on l'écarte. Il s'est établi à Charan. Or, le lieu était très lié et très semblable à Ur. En fait, c'était une ville prospère, c'était aussi un carrefour pour les voies de communication. Il y avait le même système, à la fois politique et religieux, enfin toutes sortes de choses. En particulier, pour Abraham, ce n'était pas une coupure totale comme l'appel demande. Charan avait les mêmes divinités que Ur et beaucoup d'autres points communs, comme je viens de dire. Il est possible de partir, mes amis, mais il est possible aussi de partir et de ne pas arriver. Et combien de gens, dans l'expérience on rencontre, qui prennent des décisions, qui prennent des résolutions, qui commencent à venir à l'église et tout ça, mais ils n'arrivent pas, ils ne durent pas. Voilà l'enseignement, la leçon que nous donne Terach ici n'est pas arrivé. Et nulle part on ne lit au sujet de la foi de Terach. Terach a bougé, mais ça n'était pas par la foi. Il est dans la lignée de la promesse, et ça c'est une leçon qui m'a vraiment frappé il y a quelque temps. Terach et les autres, il est dans la lignée de la promesse parce que c'est de lui que vient Abraham, n'est-ce pas? Mais il n'est pas dans la promesse. Et imaginez cela. Quelqu'un qui est là, qui suit les cultes, qui lit les livres, qui est tout et tout et tout, et qui finalement échoue. C'est terrible. C'est terrible. Comme beaucoup d'Israélites dans l'Ancien Testament, il avait tout à porter. Parce que si quelqu'un a parlé à Abraham, Terach le connaissait peut-être. Abraham devait vivre différemment, n'est-ce pas? Mais les Israélites dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup, la plupart, la carcasse est restée dans le désert. Deux seulement du paquet initial sont arrivés. Les Juifs au temps du Nouveau Testament, vous imaginez, ils ont vu, entendu le Seigneur de gloire et ils ont fini à gauche. Là, je ne parle pas politiquement, je suis simplement une référence à cette parabole, n'est-ce pas, hein? Avec les boucs. Et combien de personnes religieuses aujourd'hui? On a une forme de religion, on pense qu'on est OK, mais il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Abraham, quant à lui, lorsque l'ordre de Dieu lui parvient à Charan, il part de la bonne manière. Peut-il s'en glorifier? Non, c'est la foi qui l'habite, la vie de Dieu, cette vie qui croit, qui lui donne l'obéissance pour faire cela. Et on pense aux paroles de Paul. Paul, le grand apôtre, comme on dit aujourd'hui. Mais lui ne se voyait pas comme le grand apôtre, hein. Pas du tout. Et lui dit, la vie que je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. C'est la vie de Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et même quand il parle de tout ce qu'il a fait, il dit en fait, je n'ai aucun mérite parce que l'amour de Christ me presse. Et c'est exactement la même chose que nous voyons en Abraham. Nous lisons des mots très simples, très déterminés, très précis. Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. Acte 7, verset 4, il sortit alors du pays. Ici, dans notre passage, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Toute petite parenthèse. Mes amis, chacun de nous, nous avons à nous examiner. Oui, oui, nous sommes partis. Mais où est-ce que nous sommes? Établis à Charan, dans le tombeau voisin de celui de Terach. Or, Terach avait tout à disposition, sauf que Dieu ne s'était pas révélé à lui. La foi que Dieu donne part et arrive. Surtout, elle obéit à Dieu, même quand il faut tout quitter et ne pas savoir où on va. Est-ce que ma consécration est entière ou est-ce que je mesure ce que je peux donner à Dieu et ce que je vais garder pour moi? C'est une question, n'est-ce pas? Et vous qui êtes croyants, vous savez que cette question se repose continuellement. Parce qu'on a cette tendance de la chair dans laquelle nous sommes encore à reprendre quelque chose. Un petit bout de confort, un petit bout d'espace. Troisièmement, on a vu donc la naissance de la foi d'Abraham, la vocation de la foi d'Abraham, la spiritualité de la foi d'Abraham. De quelle trempe est cette foi que Dieu a donnée au patriarche? Nous avons vu qu'elle sépare du monde, ou des voies du monde plutôt, et qu'elle s'accompagne de l'obéissance à Dieu. Les versets 6 à 9 montrent une autre dimension dans le passage dans le chapitre 12. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Là encore, vous retournez à la carte. Jusqu'au chêne de Morée. Il vous faudra une autre carte, celle-là n'est pas suffisante. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Ces versets, bien sûr, ont une valeur hautement symbolique. Bien qu'ils soient tout à fait historiques, Abraham a marché entre ces lieux. Ses sandales se sont posées sur le sol. J'insiste parce que souvent on fait une antithèse entre symbolique et réalité. Non, les versets sont symboliques, mais réels. Abraham se rend dans plusieurs lieux une fois qu'il est parvenu en Canaan. Alors, pour nous aujourd'hui, dans une époque et une culture toutes différentes, la chose n'est pas tellement claire. En outre, on peut penser que, comme il est nomade et qu'il a des troupeaux, alors il est normal qu'Abraham soit sans cesse en mouvement. Surtout qu'il était riche. Il en avait beaucoup. Or, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, plus tard, il va quand même s'installer dans un lieu de manière plus permanente. En fait, par la foi, Abraham prend possession du pays pour l'Éternel, pour le Dieu de l'Alliance. Et si vous vous promenez dans la nature, il y a des fois, vous allez voir des marques d'un animal. La semaine dernière, on voyait des marques d'un renard. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est un petit peu glauque, mais l'animal va mettre des marques et il marque son territoire. Alors, si les autres animaux de son espèce viennent, là, j'entre pas. parce que sinon je vais avoir des problèmes. C'est exactement ce que Abraham fait. Il prend possession du pays pour l'Éternel, pour le Dieu de l'Alliance. Donc il fait ça par la foi et il fait ça en ayant les yeux sur la finalité de l'Alliance qui est annoncée depuis Genèse 3:15. N'oublions pas que le voyage d'Abraham pour Canaan n'est pas une simple relocalisation. Ça n'est pas quelqu'un qui va trouver un meilleur job. Ur était beaucoup plus prospère, beaucoup plus moderne que Canaan. Canaan, c'est la brousse. Hébreux 11 est très clair là-dessus. Abraham est allé à Canaan parce que Dieu lui avait donné de voir le but de son alliance. Allons en Hébreux 11. C'est un passage d'une très belle beauté et qui s'applique à tout croyant aujourd'hui très directement en fait. Hébreux 11, donc c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, les Cananéens étaient là. Et il n'a jamais eu de lieu qui lui a appartenu, sauf le lieu de sépulture. Donc comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parce que si jamais il n'avait pas eu les yeux sur ça, en arrivant à Canaan, il avait toujours la possibilité de retourner à Ur. Or, Abraham était un homme nouveau. C'est donc pour cela que l'Éternel lui apparut et lui confirme son alliance pour l'avenir. Ta postérité possédera le pays. Canaan est occupé par plusieurs peuplades, mais Abraham en prend possession pour l'Éternel. Ça n'est pas pour lui, hein. Ce n'est pas une conquête dans ce sens-là. Il le fait pour l'Éternel. Et d'ailleurs, quand il achète le lieu de la sépulture de Sarah, son épouse, il l'achète. Il bâtit des autels pour faire cette revendication. Voilà, maintenant, dans ce lieu, désormais, par la foi, en vision de l'espérance à venir, c'est le culte de l'Éternel qui sera le culte principal. Et ce n'était pas simplement une occupation géographique, car Christ lui-même dit qu'Abraham a vu son jour. Vous voyez, il a vu en fait la fin de l'Alliance, le but de l'Alliance. Et des fois, on pense que ces saints de l'Ancien Testament, ils ne voyaient pas les choses aussi clairement que nous. Mais franchement, moi j'aimerais bien voir aussi clairement que Abraham et Job, par exemple. Deux hommes qui vivaient pratiquement au même moment. Toute la démarche d'Abraham est spirituelle, car Dieu lui a donné une nouvelle vie et il a réveillé son esprit. C'est ça, cette foi. Et il en est de même pour tous ceux qui ont la foi d'Abraham dans toutes les circonstances. Et on pense par exemple à cet exemple de Acte 8. Les chrétiens sont chassés de Jérusalem. Ils sont étrangers sur la terre, ils sont pourchassés, n'est-ce pas? Ils sont des arrachés. Oui, dispersés, non, il y a le mot moderne là. Oui, ils deviennent illégaux pratiquement, hein, tout ça. Et que font-ils? Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils annoncent la bonne nouvelle. Des hommes qui sont nouveaux. Donc là, on voit la spiritualité de la foi d'Abraham. Abraham n'est pas simplement quelqu'un qui va dans un autre lieu. Voilà quelqu'un qui maintenant marche dans l'Alliance. Le point suivant, l'épreuve de la foi d'Abraham. Alors, il existe depuis le début de l'Église des enseignements qui prônent le fait que devenir chrétien, c'est la clé pour s'affranchir des difficultés. C'est la clé pour connaître la prospérité et tout ce qui est censé l'accompagner. Et il semble d'ailleurs que l'Église de notre époque soit confrontée à une recrudescence de cet esprit. Aujourd'hui, on parle du message de la prospérité, n'est-ce pas? Et dans tout partout dans le monde. Mais c'est un esprit mensonger. Ce n'est pas le portrait de la foi biblique. Et certainement, ce n'est pas l'expérience d'Abraham. D'Abraham obéissant. Il peut être un peu difficile pour nous de saisir la force, la réalité de la situation. Ur, la ville où résidait Abraham au départ, était un grand centre. C'était une sorte de capitale qui abritait une civilisation à la fois très sophistiquée, très moderne et prospère. Et les fouilles qui ont mis au jour les ruines de Ur montrent que il y avait des choses qu'on a mis longtemps à redécouvrir. Abraham et sa femme étaient-ils et sa famille étaient-ils déjà des bergers en marge de cette zone urbaine? On ne sait pas, mais c'est très probable. Au niveau matériel, la vie était bonne à Ur en Chaldée. On était bien. Quitter une telle situation pour aller sans savoir où on va, même si c'est un pays que l'Éternel va lui montrer, tout cela n'est pas une mince affaire. Et là, il faut qu'on saisisse tout le poids qui était sur Abraham. Ce n'était certainement pas la recherche de la facilité, la recherche de la prospérité qui poussait Abraham. Et Abraham le fait, et c'est sans cesse appuyé, par la foi. Le passage à Charan n'était pas très différent. C'était un peu une demi-mesure, entouré de la famille. Mais le passage montre qu'à Charan, Abraham était devenu riche. Donc, quand il part de Charan pour aller à Canaan, c'est quand même pas pour la recherche de la facilité. Canaan, en revanche, c'était une autre situation. D'abord, la géographie n'est pas la même. Une grande partie de Canaan, ce sont des montagnes. C'est donc pas aussi luxuriant que la vallée. Et puis, Abraham n'avait plus ses repères. Et là, on peut voir un peu, nous, dont les repères ont changé dans les derniers mois. En outre, on lit que les Cananéens étaient alors dans le pays. Des Cananéens qui étaient aussi idolâtres que les gens de Ur. Abraham, en venant dans l'alliance de Dieu, n'avait pas échangé le bien pour le mieux en termes humains et matériels. Non. Mais, Hébreux nous dit que c'était un homme spirituel qui, dans la foi, regardait et attendait la consommation de la promesse, c'est-à-dire la présence de l'homme réconcilié avec Dieu, par grâce. Et c'est tout là le sens de la ville. La ville, c'est la protection, vous voyez, la cité qui vient, donc Dieu est l'architecte. Pour rajouter à cette situation, nous lisons qu'il y eut une famine dans le pays. Alors vous imaginez, vous obéissez à Dieu, vous partez, vous quittez tout et vous arrivez, il y a la famine. Passer de l'affluence d'Ur à la famine de Canaan, heureusement qu'Abraham n'était pas séduit par le mensonge de la prospérité. Sa foi est mise à rude épreuve. Quitte ton pays. Et là, l'expression veut dire pars par toi-même, pars seul. N'attends pas que les autres viennent avec toi. Et ça, c'est important, c'est toujours l'appel de Dieu. Il obéit, il part. Les Cananéens sont dans le pays. Il possède le pays par la foi pour Dieu, en bâtissant des hôtels, en faisant le tour du pays, en présence des Cananéens. Donc là, on voit vraiment la puissance de la foi d'Abraham. Mais voilà la famine qui vient éprouver la foi d'Abraham aussi. Et la foi d'Abraham faillit. Elle chute à ce moment-là. Le voilà qui descend en Égypte et il connaît beaucoup de déboires. Plus tard même, il va chuter de nouveau de la même chute. Donc vous voyez, la foi d'Abraham n'est pas vraiment ce qui le distingue. Ça n'est pas ce qui le met vraiment en sécurité, parce que sa foi faillit et elle faillit encore dans le même point. Quand il va c'est à Gérard, n'est-ce pas? Tout cela nous montre que si la foi est le moyen, le mode opératoire par lequel Abraham se saisit des promesses de Dieu, ce n'est pas sa foi qui le sauve, parce que sa foi n'est pas à toute épreuve. L'homme de foi, le père des croyants, est sauvé par l'œuvre du Dieu de la promesse en qui, par grâce, il a foi. Et nous avons lu ce chapitre 2 d'Éphésiens, n'est-ce pas ? Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Afin qu'il n'y ait pas de gloire. Donc on peut passer beaucoup de temps à discuter sur les événements d'Égypte. Peut-être qu'on passera un moment à regarder ça plus tard. Ce n'est pas très important. L'important, c'est de remarquer que, depuis son appel jusqu'à la mention de la famine, Abraham a suivi et obéi à Dieu. Ici, en quelque sorte, Dieu disparaît. Il n'est pas mentionné pendant tout le reste du chapitre 12. Dieu disparaît. Et Abraham prend en charge son avenir avec toutes sortes de stratagèmes qui s'avèrent finalement désastreux. Et vous les connaissez, si vous ne connaissez pas, il faudra que vous alliez lire ou écouter ce chapitre 12 qui est intéressant. En Égypte, Abraham s'enrichit, mais il chavire dans sa foi. Ne sommes-nous pas en danger de connaître souvent son expérience ? L'épreuve de la foi d'Abraham. Et c'est quelque chose de très moderne, n'est-ce pas ? Très personnel. Maintenant, voyons, pour finir, la restauration de la foi d'Abraham. Parce que ça n'est pas la fin. Abraham remonte d'Égypte. Abraham, il s'est fait coincer en Égypte. Mais Dieu intervient. Et combien de fois dans votre expérience, vous qui êtes croyant, combien de fois Dieu est intervenu quand vous avez tout foiré ? Complètement. Il n'y a même plus moyen de revenir en arrière et le Seigneur fait une voie, comme au travers de la mer. Matériellement, Abraham remonte d'Égypte immensément riche. Ça va causer des problèmes. Spirituellement, il est en lambeaux. Il est repris par un roi païen. Il est interdit de séjour dans un lieu fertile. Il est séparé du sentiment de la présence et de l'intimité de Dieu. L'homme est cassé. Mais sa foi, qui a été éclipsée pour un temps, recommence à briller. Et c'est très encourageant, n'est-ce pas ? Très encourageant. Ce n'est pas qu'Abraham se reprend en main et décide d'oublier ce qui vient de se passer. Bon, allez, on oublie, on efface ce passage-là, et puis maintenant on reprend au début du chapitre 11. Non, absolument pas, absolument pas. Que fait-il ? Il se tourne vers l'Éternel. Il revient. La vie que Dieu lui a donnée, la vie qui croit, pour ainsi dire, cette vie reprend vie. Et bien entendu, puisqu'elle est immortelle. Elle l'amène à retourner aux anciens puits. C'est quelque chose que son fils va faire plus tard. On ne va pas vers des choses nouvelles. On revient aux choses anciennes qui sont toujours nouvelles. Et là, on se rappelle Jean qui disait, mais je vous donne un commandement nouveau. Mais le commandement n'était pas nouveau du tout. Mais il est donné d'une façon nouvelle. Et ici, la vie que Dieu lui a donnée reprend vie. Et elle l'amène à retourner aux anciens puits, là où il était avec Dieu. Et ça, c'est vraiment la sagesse qui le pousse. Il revient à Bethel. Pourquoi est-ce qu'il revient à Bethel ? C'est le lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, nous lisons. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Quand il est descendu en Égypte, qu'il a craint pour sa vie. Il n'a même pas pensé à l'Éternel. Il commence à faire tout un simagrée avec sa femme, sa demi-sœur, et ainsi de suite. Ici, il invoque le nom de l'Éternel. Cela ne nous fait-il pas penser à l'exhortation de Christ à l'adresse de l'église d'Éphèse ? Cette église dont nous avons lu une partie de la première lettre, mais dans la deuxième lettre aux Éphésiens, celle qu'on trouve dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Alors une église qui était vraiment solide. Un hérétique entrait dans l'église, il était remarqué tout de suite, démasqué, tout ça. Mais j'ai contre toi, souviens-toi, d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et en fait, est-ce que Jean pensait à Abraham ? Je ne sais pas, mais c'est exactement la même chose, n'est-ce pas ? Telle est la foi des élus de Dieu. Telle est la foi de ceux qui ont la foi du Père des croyants. Une foi qui est un don de Dieu. Une foi qui entend l'appel de Dieu et qui y répond dans l'obéissance. Remarquons bien cela. Une foi qui ouvre les yeux sur l'alliance de Dieu et qui est en Christ la postérité ultime. Cette postérité qui a été promise au premier couple. Une foi qui traverse l'épreuve et qui se relève de la chute. Je me rappelle une fois, il y avait un monsieur qui, enfin un jeune homme, moi j'étais jeune aussi à l'époque, alors il était venu vers le pasteur et puis je pensais qu'il voulait accaparer l'attention du pasteur. Alors il dit, mais moi pasteur, j'ai perdu la foi. Alors l'autre n'était pas trop, moi je pense qu'il avait l'expérience, il ne s'est pas trop laissé démonter, il a dit, t'avais qu'à mieux la garder. Mais cette foi qu'on perd là, c'est quoi? C'est du truc qui nous vient de l'homme. Ça n'est pas la foi biblique. Non, la foi biblique, c'est une foi qui se relève, qui se relève. Est-ce que c'est votre foi? Ou bien, en êtes-vous encore à parler d'efforts, de combines, comme Abraham? Ou bien, suivez-vous une vapeur sans consistance qui s'évapore dès que les rayons de la difficulté viennent la frapper? Un peu comme dans la parabole des terrains, n'est-ce pas? Ou bien votre foi est-elle de la sorte qui ne dure pas, qui ne voit pas, qui ne croit pas ce que Dieu a promis? Oui, je veux aller au ciel, mais je ne vois pas cette alliance que Dieu a promis. Une alliance qui est ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait parfaitement en Jésus-Christ. Et Abraham, depuis ce temps si éloigné, c'est ça qu'il voit. C'est-à-dire, c'est sa foi qui lui donne de voir cela. Sinon, il se retournait en arrière. Ur est bien trop confortable pour les gens qui n'ont pas la foi. Voyez. Que le Seigneur nous donne de saisir ces choses, d'entendre sa voix et d'avoir la foi d'Abraham. Amen.